Je suis née à Paris.
En Bretagne.
Nous habitions une ferme sur 25 hectares.
Je commençais très jeune à militer. J'étais convaincue que nous allions changer le monde.
Ça, c'est le monde que tu connais. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui.
Amis du soir, bonsoir. Je vous propose ce soir de retrouver Tété Michel Pomassy, le plus incroyable des écrivains voyageurs. Son histoire est celle d'un adolescent togolais de 16 ans, cueilleur de noix de coco, aimant les livres, qui va décider de quitter sa terre natale en 1957 pour vivre une expérience unique. Voyager jusqu'au nord du Groenland. Un appel vers l'ailleurs qui lui donnera la force, le courage et la ténacité de réaliser son rêve. Tété Michel va vivre ainsi une aventure et un voyage extraordinaire. Pendant 10 ans, il sera le premier Africain du Groenland, titre du livre qui vient d'être réédité aux éditions Artaud. Un voyage au cœur de l'altérité et aussi, comme l'écrit Jean Mallory dans sa préface, un contre-regard qui nous a toujours manqué à nous blancs pour élargir notre vision du monde. Après avoir subi, à cause d'un serpent, un choc psychophysiologique, l'homme de la forêt tropicale, guéri par une grande prêtresse, n'aura de cesse que de vouloir retrouver son peuple, les Esquimaux, dont l'âme le fascine. Vous, c'est un livre qui va changer votre destin.
Et quel livre ? Je vais, comme d'habitude, à Lomé, il y avait à Lomé qu'une petite librairie qui était la librairie évangélique. Qu'est-ce qu'on trouvait dans cette librairie ? C'était des livres de cantiques, des livres sur la foi, des livres sur les saints, les apôtres, etc. Et il y avait aussi, de temps en temps, des livres qui n'avaient rien à voir dans cette librairie. Et c'est là où j'achetais des livres qui n'étaient même pas lus dans ma classe à l'école. Et je vois un livre, le titre ne me disait rien du tout, intitulé « Les Esquimaux du Groenland à l'Alaska ». Sur la couverture, il y avait un chasseur, mais souriant. Seulement, il était habillé en peau de bête. Je n'arrêtais pas de lire et puis de voir des photos de petits Esquimaux mangeant du poisson cru. Comment ils n'ont pas de feu ? Pourquoi l'enfant mange cru ? Etc. Quand j'ai fini ce livre, j'entendais des sons, comme si j'entendais une voix. Et la voix qui résonnait, c'était « Groenland, Groenland, Groenland ». Il fait froid. Bon, il fait froid, mais bon... Mais si froid qu'il n'y avait pas de serpent. Mais c'est là mon paradis. Et ben voilà. Et j'ai fait une fugue.
Partir avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter.
Écoutez l'histoire fascinante de Tété Michel Pomassy. Une histoire réalisée et habillée par Céline Hilla, préparée par Marie-Claire Matout, mixée par Alice Berger, et c'est Monsieur Djoubaka qui a signé la programmation musicale.
Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.
Vous partez chez une tante ?
Je pars chez une tante à Abidjan.
Vous ne dites rien à personne ?
Non, même pas à ma mère.
Et vous allez mettre 8 ans pour atteindre votre but, réaliser votre rêve.
Ouais.
Ah, il vous arrive des choses incroyables. Comme si vous êtes protégé.
La productrice qui vient d'acheter les droits pour le film et qui a fait commencer l'écriture du scénario m'a revu récemment et puis m'a dit ce que je n'arrive pas encore à trouver pour le scénario, c'est quelque chose de dramatique. Parce que pour un héros, il faut que le héros lutte pour quelque chose. Alors que pour vous,
le chemin est tracé. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Hein.
C'est l'impression que ça donne.
Vous n'avez pas romancé votre histoire. Donc, c'est vraiment des rencontres.
Je ne serais jamais allé. Bon, disons aussi que les contes dont moi j'étais nourri dans mon enfance, parmi ces contes, il y en avait un. Mahou, c'est notre Dieu suprême. Mahou a créé l'homme, et a dépêché deux messagers avec deux messages différents à délivrer à la déesse Terre. Il envoie le chien et le lièvre. Au chien, il dit « Va dire à la déesse Terre que l'homme que je viens de créer ne mourra jamais, mais tu dois supporter qu'il te piétine à jamais. » Bon. Au lièvre, il dit « L'homme que je viens de créer doit mourir, mais s'il meurt, accepte de l'enterrer en ton sein. » Bon. Le premier qui délivrera son message scellera le sort de l'homme. En cours de route, le chien tombe sur la carcasse d'un énorme animal, girafe ou éléphant, etc., dont il ronge les os un à un. Le lièvre gambade, broute par-ci, par-là, et puis il arrive le premier et délivre son message à la terre. Eh bien, donc, la Terre a pris le premier message, donc l'homme meurt, parce que c'est Mahou qui l'a décidé ainsi. Dans mon village, il y avait plusieurs versions de ce conte. Il y avait un oncle qui était spécialisé à décrire le chien mangeant pendant des jours et des jours. Et c'est la faute du chien si nous sommes mortels, puisque s'il avait délivré son message le premier, on serait éternel. Et bon, et puis dans d'autres villages où on préfère le lièvre, on décrit les facéties du lièvre, et bon, etc. Et bon. Alors, moi, avant même d'avoir appris à lire, à écrire, j'étais marqué par ce conte-là. En cours de route, je savais très bien que j'avais un but qui était le Groenland. Mais il y a des gens qui s'étonnent. On me dit, mais tu es arrivé à Paris. La vie est belle, bon, etc.
Mais oui, vous arrivez.
Mais pourquoi était reparti?
Vous arrivez. Quand même, il faut juste raconter ça parce que vous le racontez vraiment bien dans votre livre. Vous arrivez chez un contact. Vous avez un nom. Vous arrivez chez ce monsieur sans même lui téléphoner. Il vous ouvre la porte. Vous rentrez chez lui. Il vous invite à dormir.
Enfin, Claude. Il s'appelle Claude, voilà. Giraudel.
Et plus tard, il va vous présenter un autre monsieur.
Oui, il va présenter Jean Callot. Jean Callot,
qui va devenir votre père.
Oui, à qui j'ai dédié le livre. Mais je vous dis à Bonne.
À la gare.
Oui, à la gare. J'arrive, j'aide deux femmes à apporter leur bagage jusqu'au taxi. Et puis, je suis revenu. J'attendais un autre taxi. Elles m'ont demandé si je vais à l'hôtel. Non, où est-ce que je dis je vais à l'hôtel, etc. Elles m'ont proposé de m'héberger. Eh bien, j'y suis resté un an.
Ça, c'est en Europe, Afrique, vous avez eu les mêmes chances, entre guillemets, quand vous arrivez à l'ambassade. Tout de suite, on vous propose un travail. Enfin...
À l'ambassade voilà. Du Ghana, à Dakar, c'est comme ça. Ah. Ensuite, j'ai travaillé à l'ambassade de l'Inde. Ensuite, en Mauritanie, j'ai travaillé dans un établissement Périssac. Et puis, après, je donnais ma démission. Et mes patrons ne comprenaient pas, me disaient, mais qu'est-ce qui te manque? Et même quand je quittais je voulais rentrer en Afrique pour raconter tout ça à mes frères africains, et mon vieil hôte Robert Matak m'a dit, mais pourquoi tu t'en vas? Ta place est ici parmi nous. Et je dirais qu'aujourd'hui, bon, ma propre femme, qui me connaît depuis tant de temps... Et
1973,
qui,
c'est ça?
Depuis 1973, et qui sait très bien que mon vœu le plus ardent, c'est de terminer ma vie au Groenland. Alors parfois, elle dit, mais tu peux pas changer d'avis? Enfin, je ne sais pas. Oui, mais je vais vous dire que grâce à mes voyages, on m'a invité partout. Je suis allé aux États-Unis, mais aussi je suis allé au Spitsberg. Le gouvernement norvégien m'a invité avec 11 autres auteurs qui ont écrit sur les régions polaires pour visiter le Spitsberg et d'autres régions du Finnmark, qui est la région, la Laponie, si on veut, hein, le pays des Samis. Quand j'étais au Spitzberg, au cours d'une excursion, on nous a fait voir des icebergs et puis des glaciers que moi, je connaissais déjà au Groenland, c'est-à-dire. J'aime les glaciers, les icebergs au Spitzberg, mais je trouve qu'il leur manque quelque chose. Au Groenland, dans la ville Ilulissat. Ilulissat veut dire le champ de glace. Et là, vous avez des icebergs, 60 mètres de haut, immenses et innombrables. Ça s'appelle d'ailleurs le fjord glacé, Ilulissat. Quand on demande à un habitant d'Ilulissat comment s'appellent les gens d'ici, il répond... Je suis Iluliamiok. Et nous sommes des Iluliamiut. Miut, c'est le pluriel. Je suis Iluliamiok. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire je suis habitant d'Ilulissat. Ça veut dire je. Oh, c'est très subtil. Je descends des icebergs. Mes ancêtres que voilà sont les icebergs. Mais c'est-à-dire que il y a une sorte de transmission de pensée entre la glace et l'homme, qu'il y a une chaleur, cette chaleur que je n'ai pas retrouvée dans les glaces du Spitzberg. Il n'y a pas d'âme, voilà, il n'y a pas d'âme, tandis que l'iceberg du Groenland a une âme, et moi, je sais pas, enterré sous un iceberg, quel bonheur!
Entendant parler ainsi, Tété Michel, je repense à ce que vous a dit un marabout que vous avez rencontré en Afrique, qui vous dit que vous avez déjà dû naître dans ce pays des glaces au cours d'une vie antérieure. Voilà pourquoi tu retournes à tes origines.
Oui, bon, quand on dit marabout, bon, marabout, ce sont des devins qui ont mélangé l'animisme à l'islam et qui... comment interprètent l'avenir ou le passé à leur manière. Mais ce qui est significatif, c'est que un Groenlandais, mon vieil hôte Robert Martin, qui je le répète, m'a dit « ta place est ici parmi nous ». Et un jeune Français qui a fait une pièce de théâtre basée sur mon livre... a terminé aussi d'une façon assez troublante. À la fin de la pièce, il dit « Ah, Tété Michel, c'est ici la fin de ton histoire. Quand tu étais mort en tant que Esquimau, les cérémonies n'avaient pas été conduites correctement et ton âme partie un peu partout... est allé jusqu'en Afrique, et maintenant, t'es revenu parmi nous, et c'est ici que s'arrête ton histoire. Bon, on parle là de gens qui viennent d'horizons différents, et qui interprète mon histoire de cette façon-là, et tous me ramènent là. Mais je dirais que je suis retourné 3 fois au Groenland après ce premier voyage.
La première fois, vous y êtes resté, donc vous êtes arrivé le dimanche 27 juin 1965, vous aviez 24 ans, et vous y êtes resté 18 mois à peu près.
Exactement,
voilà.
Oui, je suis resté 18 mois avec le désir féroce d'aller à Tulé.
Si j'avais... Qui est plus au nord.
Plus au nord, oui, c'est le dernier. De toute façon, c'est la dernière ville du Groenland et du monde. Hein, parce qu'au-delà de Tulé, c'est le pôle.
Bout du monde.
Oui, c'est le bout du monde. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au-delà. Et si j'avais atteint Tulé, eh ben, je crois que je ne serais jamais revenu. Mais là aussi, le destin s'était acharné sur moi. Je n'ai pas pu. Le bateau que je devais prendre en septembre de Upernavik, la ville précédente d'Upernavik pour Tulé, eh bien, ce bateau a été détruit par un incendie en mer au mois d'août. Et il n'y avait plus aucun moyen de transport pour y aller. Je voulais absolument y aller en traîneau à chien, mais mon hôte, Robert Matac, me l'a décommandé. Parce que le trajet est trop long pour une seule personne, et il aurait fallu au moins une vingtaine de chiens, sinon plus, en prévoyant des chiens de rechange. Et chasser chaque jour pour les nourrir, parce qu'un chien mange autant qu'un homme. Donc je n'ai pas pu faire ce voyage en traîneau aussi. Et je ne voulais pas rester une année dans toute la partie sud du Groenland que je connaissais déjà si bien. Et j'ai dit, bon, je retourne chez moi. Mais l'idée m'est venue aussi comme ça, je retourne chez moi. Mais chez moi, ce n'est pas à côté. J'ai mis encore des années pour faire ce voyage de retour. Et revenu chez moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends mon sac à dos et 16 pays d'Afrique pendant 2 années. 16 pays d'Afrique sans interruption. En parlant du Groenland, de centre culturel français en centre culturel français. Et en vivant de petits cachets qu'on me redonnait. C'est après ce voyage que je remonte encore vers le Groenland et puis à Paris, je rencontre ma femme.
En 1973.
En 1973.
Donc la première fois, vous avez fait votre fugue en 1957.
Oui.
Et vous avez voyagé pendant toutes ces années.
Oui, oui, sans interruption.
Revoir Paris. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison, bon lieu où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ces gens, tous ces braves gens de la Varenne et de nos gens. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie. Bonjour l'automne vermeil, je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais, je suis qu'un petit français, rien qu'un enfant, tout simplement.
Miva Mijo Kou
Marie-Pierre Planchon
Les France Inter.
Quand vous partez la première fois, Tété Michel Pomassy, c'est pour ne pas revenir, c'est un voyage sans retour. Alors qu'est-ce qui fait qu'au bout de presque 2 ans, une force en vous vous pousse à rentrer chez vous ? Vous écrivez dans votre livre « L'Africain du Groenland » « Pour mes compatriotes, je me devais de rentrer pour être le conteur de cette terre glaciale de soleil de minuit et de nuit sans fin. »
Oui. Vous savez, les sentiments sont, en moi, je veux dire, ne sont pas si contradictoires que ça. Je viens d'une culture qui a énormément souffert. Mais pas simplement de façon symbolique. Moi, je sais très bien. Par exemple, mon grand-père, qui n'a jamais mis les pieds à l'école, et qui, essayant de se faire comprendre à un homme blanc, eh ben, s'est vu, comment dirais-je, presque insulté, puisque le langage que lui parlait pour pouvoir se faire comprendre a été qualifié de « petit nègre ». C'est insultant, c'est méprisant. Alors que moi, en voyageant en France, quand je suis arrivé, même en Europe, et surtout en France, j'ai vu d'autres blancs, anglais, allemands, parler français en confondant le féminin et le masculin, mais qui étaient appréciés. Alors pourquoi ce mépris du noir ? Pourquoi ce mépris de mon grand-père ? Et je crois que si mon grand-père avait été là aujourd'hui et avait pu voir que vous me recevez dans une émission comme celle-ci, parce que j'ai écrit un livre dans votre langue, eh bien, ce serait pour lui une véritable revanche. Parce que on s'est tellement moqué de nous que il fallait se sortir d'une certaine façon. Alors pour moi, revenir du Groenland, c'est raconter à mes frères, à toute ma famille, ce que nous aussi, nous pouvons faire. Ici, j'essaye de vous montrer, des pages de mon livre sont étudiées dans les classes en Afrique et à Madagascar.
La sixième en français.
La sixième en français. Et là, vous voyez la photo de mon...
De votre livre.
Oui, la photo de mon livre.
La première édition, 1981. La première édition,
avec des pages. Tiens, l'Africain du Groenland, des pages où des enfants africains étudient... Bon, les enfants du Groenland, voir leur comportement, etc. Et j'ai aussi la cinquième en français. C'est vrai qu'au Groenland, je n'avais pas pensé à tout ceci. Mais je me suis dit, jusqu'à présent, qui sommes-nous ? Dans nos écoles, dans tout ce qu'on avait comme livre sur nous-mêmes a été écrit par des Occidentaux. Mais nous ne sommes pas capables d'écrire nous-mêmes sur nous. Et pendant mes tournées de conférences, je disais aux écoliers africains, j'ai dit, mais ce n'est pas la peine de chercher à aller nécessairement au Groenland, mais toi qui viens de Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, mais pourquoi tu n'irais pas séjourner un an au Dahomey, le Bénin aujourd'hui, et puis écrire un livre? Ce serait la seule façon de faire que des livres écrit par nous-mêmes, existe sur nous, et non pas toujours à travers le regard de l'étranger. Et moi, aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir que des enfants africains, je n'ai rien contre tout ce que Paul-Émile Victor a écrit sur le Groenland, bien au contraire, mais que l'enfant africain lise aussi les récits de Tété Michel Pomassy qui, il sentira mieux la façon dont j'ai souffert du froid, et puis les comparaisons que je fais sur nos coutumes, je crois que cela lui fera, enfin il se sentira beaucoup plus proche des enfants groenlandais et du Groenland en général, et donc une ouverture d'esprit sur le reste du monde. Alors, c'est pour ça qu'il m'a semblé qu'il était nécessaire que je revienne. Puis, mon grand-père à qui il a fallu que je raconte le Groenland. Oui, mais je ne pouvais... Dans notre langue, il n'y a pas de mots pour dire un iceberg ou même la mer gelée. Bon, Quand je leur dis que ce sont des chasseurs, on me dit, mais tu dis qu'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'arbres, ils chassent où? Mais ce sont des choses très simples, oui. Oui, mais ils chassent dans la mer, oui. Et quelquefois, moi, enfin, on pêchait à travers la glace de la mer. Alors, expliquer comment la mer gèle, ça a été par des périphrases. Donc, je dis à mon grand-père, la neige, c'est, ferme les yeux. Et puis, imagine que tous les oiseaux blancs, tous les oiseaux blancs du monde, sont en train de perdre leurs plumes. Donc, il me regarde, il me dit, t'as vu un pays où il n'y a que des oiseaux blancs? Je dis, non, mais imagine seulement. Le lendemain, il a raconté à toute la famille, il a dit oui, que dans son rêve, il a vu la neige. Et il a vu que tous les oiseaux perdaient leurs plumes. Et donc, et puis on ne voyait même plus le soleil. C'est ce qu'il a dit. On ne voyait même plus le soleil. Et c'était la première fois dans mon village, on parlait de neige.
J'ai relevé, Tété Michel Pomassy, dans votre livre « L'Africain du Groenland », une phrase qui m'a interpellée. Vous écrivez justement suite à ce retour sur cette terre qui était la vôtre, « On y voyait un leurre des âmes des morts pour me faire regagner mes pénates ».
Oui, parce qu'au village, les gens se disaient, on se demandait pourquoi, étant au Groenland, je cherchais les villages où les traditions, au Groenland, où les traditions étaient bien gardées. Alors que j'ai fui mon village en fuyant mes traditions. Pourquoi cette contradiction? Et des gens ont dit, ce sont les anciens, ce sont les âmes des anciens, que c'était un miroir aux alouettes, pour me faire regretter mon village et de regagner mes pénates. Et en quelque sorte, ils n'avaient pas tort.
Tété Michel, ce voyage a été initiatique. En quoi le Groenland vous a-t-il transformé?
Oh mais, en tout! Mais quand on dit l'Africain du Groenland...
Et on ne dit pas un Africain au Groenland, à noter.
Et c'est l'erreur... commise par la plupart des autres langues dans la traduction anglaise.
Oui, parce que votre livre a été traduit en combien de langues?
Huit langues. Et là, l'édition, une édition espagnole, la première édition espagnole, va sortir ce mois-ci. Et on traduit un African in Greenland. Ça peut être n'importe quel Africain. Mais l'Africain du Groenland, c'est tout à fait autre chose.
Vous êtes le premier?
Ah oui, les Groenlandais à Thule, ceux de la base américaine de Thule, ont vu des Noirs américains. Et pendant la dernière guerre mondiale, ils ont vu des Noirs américains à Thule. Et à Sondre-Stromfjord, au sud du Groenland, où il y a un aéroport aux mains des Américains, ils ont vu des Noirs. Mais un Noir venant d'Afrique, non. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est le premier. Alors, en quoi le Groenland m'a transformé? Mais je vous dirais en tout. Le fait que je parle à mon grand-père comme... j'ai la conviction de lui apprendre, de lui parler de mon pays quand je lui parle du Groenland. Et quand ma mère me disait, mais ce n'est pas vrai que tu as mangé du poisson cru. La façon dont j'essayais de lui faire comprendre que le poisson cru est excellent et que manger sans épices nous permettait de nous passer du sel pendant un certain temps. Je me suis approprié le Groenland en parlant à ma famille. Et si bien que, et c'est aussi ce que j'écris, le Groenland m'a aussi transformé en ce sens que, à l'âge où je suis revenu au Togo, à 27 ans, j'étais encore un enfant dans pour la tradition. Je devais encore, le soir, m'asseoir dans le salon de mon grand-père et écouter les adultes discuter sans intervenir, écouter ce qui se disait. Mais à mon retour, eh bien, c'est moi qu'on écoutait sans m'interrompre.
Ça, c'était inversé.
Et absolument. Absolument. Les valeurs se sont complètement renversées, c'est ça. Et c'est grâce au Groenland.
Njayane aralempleni kimekwem Nsangasang yani Njayane aranupleni kimembu Kwemasang yani Njayane Njayame Njayame Njayame
Vous êtes marié à une Française, c'était Michel. Vous avez eu deux enfants ?
Oui, deux fils.
Vous leur avez transmis le goût du Groenland ?
Mais je les ai emmenés au Groenland.
Oui.
Oui, je les ai emmenés.
En 85.
En 85, pendant l'été. Et nous avons été accueillis dans trois villages différents autour de la baie de Disco. Par mes anciens hôtes. Ils étaient quand même fascinés de savoir que leur père, avant leur naissance, hein, que leur père avait vécu là, que ces gens-là me connaissaient si bien que quand ils sont venus à notre rencontre, la façon dont ils s'étaient jetés sur moi, ma femme et mes enfants me regardaient. Ils n'en revenaient pas. Et ça a été la même chose quand nous sommes allés en Afrique. Il y a donc cette interpénétration des cultures, hein, bon, chez moi, avec ses hôtes. Et en pensant à mon hôte Robert Matac, eh ben, il m'arrive des fois de penser en même temps à mon propre grand-père. Ce sont des gens qui ont vécu dans leur animisme, qui comportent tellement d'humanité, je veux dire d'humanité et de... Et de respect envers la nature. Bon, je me demande dans quelle mesure nous, animistes, nous ne serions pas les premiers écologistes. On protégeait tout. Hein, on... Quand, par exemple, le chasseur esquimau tue une baleine, eh ben, dans le village, on ne chassait plus la baleine. On ne tuait pas en continuant de tuer pour tuer, non. C'est, de toute façon, pour aller tuer la baleine, il y a des cérémonies. Et une fois la baleine tuée, il y a d'autres cérémonies pour que l'âme de la baleine puisse réintégrer sans heurts son habitat, et qui est la mer. Il faut voir tout ça. On ne massacre pas, on prélève. Et même la baleine est contente puisqu'elle offre sa chair aux habitants. Mais du moment que l'âme est préservée et que l'âme retourne parmi les siens, il n'y a pas meurtre. Donc il y a ce respect de la nature. Et ce n'est pas qu'à l'égard des animaux, mais c'est aussi à l'égard des arbres. Nous apportons des offrandes à des arbres que nous considérons comme des divinités. Il existe aujourd'hui, quand je vois la forêt d'Okoumé au Gabon où je suis allé, j'ai même été hébergé à l'hôpital du docteur Schweitzer à Lambaréné. Sa secrétaire m'a reçu, était très enthousiasmé par ce que je faisais. Le docteur Schweitzer était déjà mort, mais que quand on voit le bois Okoumé qui est décimé, enfin je ne sais pas moi, inconsidérément, mais les habitants avaient préservé tout cela. Et moi, avec ma passion pour le Groenland, je sais qu'en 1342, les fourrures de la Russie commençaient à inonder l'Europe, c'est-à-dire les fourrures des loutres de mer commençaient à inonder l'Europe, et les Norvégiens ne trouvaient plus intéressant d'affréter des bateaux pour aller chercher de l'ivoire au Groenland, parce que l'ivoire venait d'Afrique en 1342. C'est-à-dire qu'on massacrait déjà nos éléphants en 1342. Et quand un pays s'appelle la Côte d'Ivoire, on sait pourquoi. Eh ben oui, quel ivoire? Ce ne sont pas des ivoires de flétans, ce sont des ivoires d'éléphants. Eh ben tout ça a été massacré. Aujourd'hui, on crie au loup en disant « les Africains massacrent les éléphants ». Mais non. Le massacre a eu lieu par des gens de façon inconsidérée.
Tété Michel Pomassi, vos enfants suivent votre voie ?
Non, chacun d'eux suit sa propre voie et ils ne suivent pas ma voie, mais ils font exactement comme moi. C'est-à-dire qu'ils ont vu que j'ai désobéi à mon père et il est tout à fait normal qu'ils me désobéissent aussi, d'une certaine façon. L'aîné est... ingénieur informaticien dans une banque, et puis son frère est versé dans l'art, l'histoire de l'art, et très impliqué dans les musées et la culture, pas seulement européenne mais universelle. Universel, et puis en même temps musicien et musique du monde entier. Et il a chez lui des sarangis, c'est-à-dire des instruments de musique persans. À chaque fois qu'on se voit, il a autre chose à me faire découvrir.
C'était Michel Pomassi. Quel est pour vous le sens de la vie ?
Mais le sens de la vie, je crois que ma culture l'a trouvé longtemps avant moi. Le sens de la vie dans ma culture, c'est être pour son village un modèle. Dans la case de mes deux grands-pères, il y avait ce que nous appelons des éclans. Éclans, c'était des calebasses qui représentaient, si on peut dire, des crânes. Et chaque calebasse représentait un ancêtre dont le nom lui était attribué. Et on invoquait ses ancêtres et on leur demandait la voie à suivre, on leur parlait. Ce qui montre très bien qu'ils ont mené une vie modèle, je veux dire, sur le plan moral, qu'on se réfère toujours à eux. Et pour eux, c'est le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est faire en sorte que les descendants trouvent un chemin en se référant à vous. Pour moi, c'est ça le sens de la vie. Et là encore, le fait que dans les écoles d'Afrique et de Madagascar, on me cite en exemple, pour moi, c'est encore le sens de la vie. Le sens de la vie est encore plus large chez nous. Avant ma naissance, ma mère a eu une fille, ma sœur aînée, dont le souvenir est un peu vague dans ma tête, mais qu'elle a perdue quand j'étais encore tout petit. Et elle est morte de paludisme. On lui a fait une statuette pour la représenter. Et quand elle me portait dans le dos, elle portait la statuette devant. Et le soir, quand on mangeait, la statuette de ma sœur était là et on lui donnait à manger. On me disait, Tété, donne à manger à Dédé. Dédé, c'était ma grande sœur. Et on parlait d'elle comme si elle était là. Les missionnaires, les pères blancs, venus dans le village, on dit, ah oui, vous êtes des idolâtres, il faut se débarrasser de tout ça. Débarrasser de tout ça. Ces statuettes, la statuette de ma sœur, elle est où maintenant? Ces statuettes raflées à l'Afrique. On nous traitait d'idolâtres par des gens qui, dans leurs églises, ont aussi des statues. Alors, ces statuettes se trouvent où? Mais chez de riches collectionneurs ou dans des musées. Bon, donc nous, le sens de la vie, on l'avait et on savait la diriger, notre vie, et en lui donnant un sens. C'est-à-dire que cette statuette de ma sœur servait quand même, on peut dire, de cure. Enfin, c'était sur le plan moral pour ma mère, et cela atténuait cette douleur-là.
Thérapeutique, on peut dire.
Thérapeutique, oui, absolument. Thérapeutique. Et c'est pour ça aussi que j'en veux énormément à ces religions qui se disent révélées, mais qui révèlent quoi? Bon, on nous vend, je les traite aussi d'agences immobilières, puisqu'ils nous vendent des places au paradis. Mais on y va quand? Mais quand nous autres Africains, une fois crevés de faim sur Terre. C'est horrible, ça, comme... Et puis, ce sont les deux religions esclavagistes qui aient jamais existé au monde.
Vous arrivez à être en paix quand vous pensez à ça?
Non. Non, ça aussi, c'est le sens de la vie. Le sens de la vie ne peut pas consister à vivre en paix. Hein? Mais c'est une lutte permanente.
Merci infiniment, Tété Michel Pomassy, d'être venu partager toutes ces connaissances, toute cette vie passionnante. On n'en a raconté qu'un tout petit bout. La suite, c'est dans votre livre, hein, L'Africain du Groenland, qui est paru chez Artaud, le récit mythique du premier écrivain voyageur africain. Merci beaucoup.
Écoutez, Marie-Pierre Planchon, c'est moi qui vous remercie infiniment. Et comme je vous l'ai dit, je crois que de l'au-delà, mon grand-père vous remercie.
Alors, si vous voulez suivre cette aventure et ce voyage initiatique dans les moindres détails, je vous invite à lire le livre de Tété Michel Pomassy, L'Africain du Groenland, paru aux éditions Artaud. Vous pouvez également réécouter, podcaster et partager avec vos amis cette émission et les autres en cliquant sur notre site franceinter.fr Partir avec Marie-Pierre Planchon. Je vous donne rendez-vous dimanche soir prochain pour une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure. Je vous souhaite une très belle semaine. semaine et, comme le disent les Grecs, kalinikta, que votre nuit soit douce et sucrée.